Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Ira, ira pas, la colère, vous deviez l'entendre de Yelena Isinbayeva, athlète russe pour qui les prochains JO devaient être le théâtre d'un dernier sacre, mais qui pourrait bien, comme l'ensemble des athlètes russes, être interdite de participation. Le scandale débute en 2013. Un couple de lanceurs d'alerte russes, Vitaly Stepanov, ancien fonctionnaire de l'agence antidopage, et son épouse, l'athlète Yulia Stepanova, accusent leur pays de dopage organisé et poussent l'agence mondiale antidopage à mener une enquête. Son résultat fait l'effet d'une bombe, c'était en novembre. Le rapport pointe du doigt l'implication directe de l'État russe dans l'organisation de ce système de dopage. On y apprend, par exemple, que le laboratoire antidopage national était infiltré par des agents du FSB. Résultat, la Fédération internationale d'athlétisme suspend les athlètes russes de toute compétition internationale et demande à Moscou des garanties pour une participation aux Jeux Olympiques. Nous avons rempli tous les critères, assurés les Russes ce matin, à la veille de la décision finale. Alors, faut-il exclure les athlètes russes des Jeux Olympiques ? C'est le débat de ce soir. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio Jean-Christophe Collin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes grand reporter à l'Équipe. Vous êtes aussi l'auteur du livre Athlétisme qui est paru aux éditions Chroniques. Et puis, notre deuxième invité est avec nous par téléphone, Pierre-Jean Vazel. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes entraîneur et vous tenez par ailleurs un blog sur le site du journal Le Monde. Donc le blog s'intitule Vazel, vazel.blog.lemonde.fr. Jean-Christophe Collin, est-ce qu'il faut exclure demain l'ensemble de la délégation des athlètes russes des Jeux Olympiques de Rio ?
Compte tenu des éléments de l'enquête, compte tenu de l'implication de la fédération dans son ensemble, compte tenu de l'implication des structures médicales et de l'État russe, je crois que l'IAF est obligé de prendre une mesure assez radicale et forte, parce que là, il y a tellement de gens impliqués à tous les niveaux que ça me paraît être la bonne solution, et au moins pour envoyer un signal fort.
Oui, un signal fort. Justement, c'est ce qu'on entend beaucoup, hein, frapper un grand coup. Ce sont les mots qui ont été utilisés par Bernard Amsalem, le président de la Fédération française d'athlétisme, ou encore par Stéphane Caristin, un ancien athlète, qui, je rappelle, a été champion d'Europe 110 mètres haies en 86. C'est ce que vous dites, vous, en gros, en substance, vu l'ampleur des révélations, c'est mérité, c'est ça ?
Mérité, effectivement, parce que de ce qui est ressorti de l'enquête, de circuit, ressorti des témoignages des épouses Stepanov, mais pas seulement, du dernier responsable du laboratoire. C'est-à-dire que c'est tout le système qui est vicié, c'est un dopage institutionnalisé d'État, de la fédération, du médecin fédéral. Enfin, tout était organisé pour doper les athlètes. Donc c'est l'ensemble de la pyramide qui est touchée. Et du coup, effectivement, c'est une décision juste, mais qui n'est pas sans conséquence. C'est aussi pour ça que c'est une décision compliquée à prendre, parce qu'il y a d'autres pays où il y a dopage qui est
important. Oui, évidemment, on va y venir.
Donc,
la question, c'est aussi celle de la mesure.
Les Russes peuvent dire, pourquoi nous, quoi ? Alors, pourquoi seulement nous ?
Pierre-Jean Vazel, justement, vous, votre opinion sur cette décision qui doit être prise demain, qui va être annoncée demain, elle a probablement déjà été prise. Est-ce qu'il faut exclure l'ensemble des athlètes russes des JO ?
Je crois que, comme Jean-Christophe Collin le disait, avec tous les éléments à charge qui ont été répertoriés ces derniers mois, y compris le dernier rapport de l'AMA publié hier, la Fédération internationale d'athlétisme n'a pas d'autre choix par rapport à l'attente du public que de suspendre la Russie. Après, est-ce que ce serait une décision juste ? Je ne sais pas. D'une part, par rapport aux athlètes, parce qu'il n'a pas été montré que tous les athlètes étaient dopés en Russie. Il y a peut-être des disciplines hors demi-fond et fond qui n'ont pas été soumises au même dopage sanguin que les sports d'endurance qui ont fait les gros titres ces derniers mois. Et encore une fois, ce seront les athlètes qui paieront pour les prises de position politique de leurs dirigeants.
Et précisément, c'est Moscou qui parle ce matin, qui essaie, j'imagine, de défendre un peu son dossier, Jean-Christophe Collin, et qui dit « Nous avons tout fait, nous avons fourni les garanties nécessaires, puisque c'est vrai qu'on leur demande des comptes. Est-ce que c'est crédible, ce genre de position, de prise de position à quelques heures de... »
Ils sont dans leur rôle, les institutions russes et gouvernementales sont dans leur rôle. Simplement, dans un laps de temps aussi court, il est difficile de croire que le dopage institutionnel en Russie est éradiqué. On sait qu'il y a des entraîneurs qui étaient suspendus, qui continuent d'entraîner dans des petites villes au fin fond de la Russie. On sait que voilà, c'est tout un système, c'est tout un système, mais qui dure depuis plus de 50 ans. Donc on l'éradique pas comme ça. En quelques semaines. Donc
et en même temps, il y a quand même une forme de bonne foi, peut-être, des nouveaux dirigeants russes. Alors, je voulais juste parler du nouveau président de la Fédération russe, qui a été nommé dans la foulée de ces révélations, Dmitri Chliadkin, qui dit qu'il a pour mission de faire le ménage, et il parle d'un changement complet de mentalité à mener. Donc, il avoue quand même qu'effectivement, il y a tout à changer.
On ne lui fait pas un procès d'intention, certainement que cet homme-là a l'intention d'éradiquer le dopage, comme peut-être Yuri Borzakovsky, qui est le nouveau DTN chargé du haut niveau. D'ailleurs, Yulia Stepanova, que j'ai rencontré, les époux Stepanov que j'ai rencontré il y a quelques temps cachés aux États-Unis, disaient effectivement peut-être qu'il n'y a qu'un athlète qui n'était pas dopé, c'était Borzakovsky, et qui est aujourd'hui responsable du haut niveau. Mais encore une fois, le problème, c'est un ensemble, c'est une organisation. Et pour démonter cette organisation et ensuite pour changer l'ensemble des personnes qui ont de près ou de loin touché à ce dopage institutionnalisé, c'est compliqué. Puis en même temps, l'IAF, effectivement, c'est la Fédération de Russes, c'est une très très grosse fédération. Il faut rappeler que les Russes et Soviétiques sont la nation la plus titrée aux Jeux Olympiques. Donc ça serait une décision très très forte en termes d'impact sur les Jeux Olympiques, parce que ne pas avoir les athlètes russes à Rio, c'est quelque chose, c'est vraiment une décision très très forte d'un point de vue symbolique. Et en même temps, elle pose aussi d'autres problèmes parce qu'il n'y a pas que l'athlétisme russe.
Elle pose aussi la crédibilité du sport quand même aussi, avec tous ces... la tricherie est quand même généralisée. S'il n'y a pas des réponses un peu à la hauteur, est-ce qu'on va continuer à être crédible? C'est ça ce que ça pose aussi
comme
question.
Oui, d'autant plus que l'IAF est mêlée à des scandales de corruption en son sein. Donc effectivement, l'IAF a vraiment presque l'obligation de prendre des décisions fortes. Maintenant, est-ce qu'elle va le faire? C'est pas sûr. Aujourd'hui, on pense plutôt qu'elle va renvoyer cette décision vers le CIO. C'est-à-dire, on exclut la délégation russe, mais pas les athlètes. En gros, on suspend la fédération.
Voilà, c'est-à-dire qu'on parle d'une sorte de solution un peu alternative. Alors justement, Pierre-Jean Vazel, vous étiez critique tout à l'heure. Vous nous disiez, il ne faut pas s'en prendre directement aux athlètes, en tout cas pas à tous. Est-ce que cette solution qui permettrait à certains athlètes russes qui n'ont pas été contrôlés positifs de participer aux Jeux, non pas sous la bannière de la Russie, mais sous la bannière du CIO, ça vous paraît être une bonne solution?
Écoutez, à la base, on a demandé quelque chose d'impossible à la Russie, c'est-à-dire de changer une culture de dopage en quelques mois. C'est pas possible. Et on peut aussi demander à la Russie de se plier à ses exigences d'ici 4 ans. Pour les Jeux de Tokyo en 2020, ça sera toujours pas fait. Donc on peut comparer un petit peu cette exigence à ce qu'on a demandé à la Grèce par rapport au FMI et à la Banque européenne. On leur demande trop en trop peu de temps. Alors après, cette solution intermédiaire, effectivement, ce serait renvoyer le colis au CIO, mais simplement, on sait que le président du CIO entretient de bonnes relations avec Poutine, et à ce moment-là, on se dirigerait vers une qualification, une réinstitution de la Russie à Rio 2016.
Oui. Vous êtes d'accord, Jean-Christophe Collin dit oui, c'est-à-dire que bon, il y aurait encore cette espèce de soupçon qui serait là finalement.
On sait très bien que oui, effectivement, il y a visiblement l'intention, mais bon, on verra demain, mais de l'IAF peut-être de refiler la patate chaude au CIO. Or, on sait effectivement, comme le dit Pierre-Jean, que le président du CIO, Thomas Barr, entretient des liens assez étroits avec Vladimir Poutine, et qu'on sait que lui, il veut que les Russes soient au JO. Parce que si on exclut l'athlétisme, on sait dans les révélations des époux Stepanov et de l'enquête que il n'y a pas que l'athlétisme qui est touché. C'est un dopage institutionnel, un dopage d'État qui touche tous les sports. Tous les sports. Moi, j'ai vécu en Union soviétique à l'Institut des sports il y a une vingtaine d'années. Je peux vous dire que c'est effectivement l'ensemble des sports. C'est une politique globale. Les époux Stepanov racontaient que quand ils allaient voir le responsable de la commission médicale de l'athlétisme, qui était aussi responsable de la commission médicale de la fédération de natation, dans la salle d'attente de ce médecin qui dopait l'ensemble des athlètes, il y avait des skieurs, des nageurs, donc tout un tas de sportifs. Donc le risque effectivement pour le CIO, c'est si on supprime et on empêche les athlètes d'aller au jeu, après on va dire mais pourquoi que les athlètes? Et là, effectivement, c'est ouvrir la boîte de Pandore pour le CIO.
Vous êtes d'accord, Pierre-Jean Vazel, finalement, une exclusion totale de cette délégation n'aurait pas beaucoup de sens parce que l'athlétisme prendrait pour les autres sports. Il y aurait une sorte de sanction un peu globale.
Je dis pas que ça n'a pas de sens. J'explique le mécanisme.
Donc c'est pas suffisant finalement.
Sur le CIO. Si, moi je pense que l'IF doit le faire, mais. Si d'aventure elle refile la patate chaude au CIO, pour le CIO, la décision va être très compliquée à prendre.
Pierre-Jean Vazel, sur ce point ?
Je pense que ce serait une décision contre-productive, par ailleurs, parce que ça renforcerait la position de la Russie, sa position un petit peu marginale et en défiance vis-à-vis des conventions internationales. Elle est déjà un petit peu dans cette position depuis 20 ans, avec le scandale du Bromontant au jeu d'Atlanta en 96, qui était autorisé, pas autorisé, on ne sait pas. Enfin, bon, les athlètes ont été exclus, et ça a été une première grosse blessure narcissique pour la Russie. Et depuis, en fait, les dirigeants russes n'ont eu de cesse que de défendre les athlètes dopés et à se crisper et à se mettre dans une position victimaire face aux institutions internationales, que ce soit le CIO ou l'Agence mondiale antidopage.
C'est-à-dire qu'il faudrait suspendre dans d'autres sports et dans d'autres pays pour que les sanctions soient finalement vraiment efficaces et perçues comme une réelle volonté de lutter contre le dopage ?
Au-delà de la Russie qui se considère comme un bouc émissaire, et on peut le comprendre finalement parce qu'il y a qu'elle qui est visée, c'est quand même l'ensemble du système antidopage qui est à revoir, parce que globalement, l'antidopage analytique est inefficace, les contrôles ne sont pas efficaces. Hein, il y a 1% seulement par année de contrôles qui s'avèrent positifs.
Et d'ailleurs, les grands scandales viennent souvent de révélations de journalistes plutôt que de l'Agence mondiale antidopage.
Tout à fait. Donc c'est beaucoup de contrôles antidopage pour rien, notamment les contrôles sanguins, puisque selon les dernières stats de l'AMA, sur 11 000 contrôles en 2014, il y en a eu 6 qui sont retournés positifs, donc c'est ridicule. Le New York Times a publié hier soir un long papier sur l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, et les soucis de conflit d'intérêts qui existent au sein de l'AMA. On rappelle que les époux Stefanov ont envoyé 200 emails ou courriers depuis 2010 et que rien ne s'est passé au niveau de l'AMA avant, jusqu'à ce que la RD ne diffuse un documentaire à la télé allemande. Et là, l'AMA est obligé de réagir.
Donc AMA, Agence mondiale antidopage, oui. Hein, pour que nos auditeurs comprennent bien, puisque ce ne sont pas des spécialistes. Vous êtes d'accord, Jean-Christophe Collin ?
Oui.
Le centre de la question, il se situe là ?
Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que c'est la politique antidopage, elle avance à pas lent, on va dire. Hein. Effectivement, déjà la création de l'Agence mondiale antidopage, c'était une grande avancée. Maintenant, il faut qu'elle existe depuis quelques années, mais elle dispose pas déjà d'un budget suffisant, quoi. Compte tenu de l'ampleur du phénomène, elle dispose pas de moyens suffisants. Ensuite, effectivement, comme le dit Pierre-Jean, il y a des conflits d'intérêts au sein de l'AMA, même son président, qui est aussi membre du CIO. Effectivement, il faudrait que ça soit une structure véritablement indépendante, avec des gros moyens d'investigation, avec des moyens policiers. Enfin,
Est-ce qu'il y a des propositions qui sont faites en ce moment sur ce terrain-là?
Il y a quand même eu des avancées. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de chemin fait dans les 10 dernières années que dans les 50 dernières années, notamment par l'introduction du passeport biologique, qui est quand même une avancée. C'est-à-dire que maintenant, on ne contrôle pas uniquement ce que vous avez dans les urines ou dans le sang, mais on regarde l'évolution de vos paramètres biologiques, vos paramètres sanguins, et on peut vous empêcher de concourir simplement en fonction d'une analyse de l'évolution de ces paramètres. Donc, c'est un contrôle indirect du dopage. Déjà, ça, c'est une avancée. Donc, effectivement, c'est large. C'est pas encore suffisant, comme le soulignait Pierre-Jean. Effectivement, il y a encore énormément de progrès à faire, et surtout, qu'il y ait une volonté forte au sein de l'AMA d'instruire les dossiers.
Alors, je voudrais revenir un petit peu au centre de l'émission avec cette question. Est-ce qu'il faut exclure l'ensemble de la délégation russe ? Pierre-Jean Vazel, vous avez peur aussi que soit condamné, que soit privé de JO des athlètes qui sont clean, comme on dit ?
Oui, il n'a pas été montré que tous les athlètes de l'équipe de Russie étaient dopés. Donc je trouve que c'est... c'est dommage, ouais.
Alors, effectivement, j'ai rencontré les époux Stepanov il y a un mois aux États-Unis, dans leur cache aux États-Unis, et Vitaly Stepanov qui travaillait à l'agence russe antidopage.
Donc les deux lanceurs d'alerte. Les deux lanceurs d'alerte.
Effectivement, ouais. Il me disait. Voilà, notamment, on parle du cas Intsibayeva, quoi, la recordwoman du monde de la perche, et lui disait, mais Intsibayeva, elle appartient à un système, quelque part complice de système. À aucun moment, elle a levé le doigt pour dire, je dénonce, parce que elle est au courant, bien sûr, tout le monde est au courant en Russie. En plus, le dopage institutionnalisé, il est payé, les athlètes sont tous membres de la police, de l'armée, etc. Ils sont payés par leur région, qui participent de ce système.
Mais en même temps, ils sont prisonniers de ce système aussi.
Ils sont prisonniers de ce système, mais vous pouvez, alors c'est extrêmement compliqué, mais vous pouvez, ce que dit Stepanov, il dit, Intsibayeva, peut-être qu'elle s'est pas dopée, mais elle a au moins été complice du système.
Et alors là-dessus, Pierre-Jean Vazel, est-ce que finalement ne pas être complètement libre de dire non, ça les dédouanerait ?
Ça, c'est très difficile de le dire, mais il n'y a pas eu que les époux Stepanov. Il y a une lanceuse de disques médaillée d'argent au JO de 2012 qui a aussi envoyé des emails à l'Agence mondiale antidopage, qui a apporté des preuves, qui a donné des noms, qui a dénoncé le système. Seulement, tout ce qu'a trouvé l'AMA à faire, ça a été de réceptionner ces messages et de les renvoyer à la Fédération russe.
Oui, effectivement, ça fait pas très très lourd. Je voudrais peut-être qu'on dise un mot de ces JO qui se préparent. Donc c'est dans 2 mois, peut-être sans la Russie. Est-ce que ça reste des Jeux Olympiques, des compétitions d'athlétisme sans la délégation russe? Est-ce que ça risque de changer complètement les hiérarchies?
Dans certaines disciplines, le 800 mètres féminin, par exemple, enfin des disciplines comme ça, les distances de demi-fond féminines, effectivement, où les Russes sont très présentes, le 400 mètres, bon, le 800 mètres, le 1500, le 3000 steep, des choses comme ça, effectivement, ça va changer la donne, mais c'est un mal nécessaire.
Votre idée là-dessus, Pierre-Jean Vazel, des Jeux Olympiques sans une délégation d'athlètes russes, est-ce que ça reste une compétition normale, une belle compétition?
Bien sûr, il faut se rappeler des Jeux de Los Angeles en 1984, où tout le bloc soviétique était absent et les compétitions étaient d'un très haut niveau, peut-être moins dans les disciplines de lancer, mais on sait aujourd'hui qu'elles n'étaient pas non plus exemptes de dopage. Hein. On a eu le témoignage récemment de la lauréate du lancer du disque, une néerlandaise qui a voulu s'être dopée. Donc voilà, c'est pas parce qu'on
en... Mais c'est ce que je vous demandais, c'est que là on cristallise beaucoup sur la Russie, mais finalement est-ce qu'il n'y a pas d'autres pays sur lesquels on a de forts doutes qui mériteraient peut-être...
Voilà, c'est la communication officielle du CIO et de l'Agence mondiale antidopage qui nous répète à chaque Jeux olympiques que ce seront les plus propres de l'histoire. En 2012, on nous a bassinés avec ça et on sait ce qu'il en est aujourd'hui. Là, on nous garantit qu'en excluant la Russie, on aura des jeux propres, non?
Et alors, vous pensez à quel pays?
Notamment,
on parle beaucoup du Maroc, du Kenya, de l'Éthiopie, par exemple.
Les anciens pays de l'Union soviétique, qui ont certainement un fonctionnement identique ou très similaire à celui de la Russie, en Biélorussie, l'Ukraine, voilà, d'autres pays. Simplement, l'Agence mondiale antidopage n'a pas mené d'enquête dans d'autres pays pour l'instant parce que il n'y a pas eu de médias ou de documentaires télé pour les alerter.
Ou de lanceurs d'alerte.
Ils n'ont bougé que lorsque c'est passé à la télé.
Jean-Christophe Collin,
Oui, il est certain que dans les pays de l'ex-URSS, les 15 républiques de l'ex-URSS, effectivement, que le fonctionnement est le même. En Ukraine, en Biélorussie, en Ouzbékistan, effectivement, il y a un dopage institutionnalisé de la même façon. Simplement, là, il y a un dossier qui a été inscrit, il y a une enquête et qui a abouti à un résultat. Donc là, on peut se baser sur des faits. Après, effectivement, mais tant qu'il n'y a pas d'enquête, là, au moins, on peut se baser sur des faits concrets, sur une enquête, et on peut statuer sur l'exclusion ou pas de l'athlétisme russe,
mais au moins qu'il repose sur quelque chose de concret. Mais qu'ils soient exclus, ce ne seront pas des JO clean. En gros, c'est ce que vous nous dites. On sait très bien qu'il y a des systèmes de dopage ailleurs.
Bien sûr, non, mais on sait qu'il y a effectivement des doutes sur un certain nombre d'athlètes kényans, éthiopiens, etc. Effectivement.
Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Christophe Collin, grand reporter, à l'équipe, auteur du livre Athlétisme aux éditions Chronique, Pierre-Jean Vazel qui est avec nous par téléphone, entraîneur et blogueur sur Le Monde. Merci également à Florence Ponce et à Valentin Vanner. Tout de suite, c'est un nouveau journal sur RFI.
L'épopée des musiques noires.